Il est 8h sur France Inter. C'est l'heure du journal de Serge Martin. Bonjour Serge.
Bonjour Eric, bonjour à tous. À la une de l'actualité de ce dimanche 11 novembre, les cérémonies de commémoration de l'armistice de la guerre 14-18. Cérémonie que vous allez pouvoir suivre en direct dès 10h ce matin sur France Inter. Cérémonie que nous allons vous détailler dans un instant. Autre titre dans l'actualité de ce dimanche, ces terribles incendies qui ravagent du nord au sud l'état de Californie. Le bilan s'élève pour le moment à 23 morts, près de 100 disparus et des milliers de personnes évacuées. Dans le journal des sports à 8h10, Laetitia Bernard reviendra sur la nouvelle défaite du 15 de France hier soir au stade de France face à l'Afrique du Sud. Des Bleus qui ont pourtant frôlé la victoire avant de perdre bêtement 29 à 26 à l'issue du temps réglementaire. C'est le cinquième revers d'affilée des tricolores à 10 mois de la Coupe du Monde. Enfin, à 8h20, vous recevez notre consoeur Florence Aubenas, Eric Delvaux.
Oui, grand reporter au monde, elle est allée à la rencontre des Français du Nord et de l'Est de la France durant une semaine dans le sillage de la tournée mémorielle du président. Eh bien, vos questions ce matin à Florence Aubenas, c'est dès maintenant au 01 45 24 7000.
France Inter.
Il y a un siècle de cela, jour pour jour, les protagonistes de la Première Guerre mondiale signaient l'armistice dans la clairière de Rotonde, autrement dit la fin de cette guerre 14-18. Un armistice célébré hier par la chancelière allemande Angela Merkel et Emmanuel Macron côte à côte. Place aujourd'hui aux autres commémorations officielles de ce 11 novembre 1918, en présence d'une soixantaine de chefs d'État et de gouvernement. Commémorations qui vont débuter à 11h ce matin. Cyril Graziani, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à l'Élysée, que le chef de l'État va quitter tout à l'heure d'ailleurs, pour se rendre à l'Arc de Triomphe. Parlez-nous du programme plutôt chargé de cette journée.
Et dans quelques minutes, près de 70 chefs d'État et de gouvernement, les uns après les autres, vont entrer dans la cour de l'Élysée. La dernière fois qu'un nombre aussi important de dignitaires s'était réuni ici, ensemble au palais, c'était aussi le 11, mais le 11 janvier 2015, après les attentats contre Charlie Hebdo, l'hypercachère et la grande marche républicaine de Paris qui allait marquer le siècle. Trump, Merkel, Poutine, Netanyahou, Erdogan, Trudeau, les premiers devraient arriver dans les prochaines minutes, accueillis par Emmanuel Macron. Un tapis rouge a été posé pour l'occasion en haut des marches. Ils partiront ensuite tous ensemble vers l'Arc de Triomphe. Emmanuel Macron prendra la parole. Il s'agit de faire résonner le 11 novembre 1918 avec le 11 novembre 2018, raconte son entourage. Quand le clairon aura joué la sonnerie du cessez-le-feu, le cortège de présidents et premiers ministres repartira en direction de l'Élysée pour un déjeuner avant que certains d'entre eux ne se rendent au Forum de Paris sur la paix cet après-midi. Deuxième partie de cette journée, point d'orgue pour Emmanuel Macron, après une semaine de commémoration partout en France.
Cyril Graziani en direct de l'Élysée, donc en compagnie de Laurent Lucas pour les moyens techniques. Des cérémonies que vous pourrez bien entendu suivre sur l'antenne de France Inter au cours d'une édition spéciale qui débutera ce matin à 10h et ceci jusqu'à 13h.
Des cérémonies du 11 novembre qui vont se célébrer un peu partout en France, notamment en Lozère.
La Lozère, oui, d'où serait issu un berger reconnu officiellement comme le dernier mort français de cette grande guerre. Augustin Trébuchon, c'est son nom, serait, selon l'histoire, mort 10 minutes avant le cessez-le-feu. Une histoire qui a mis beaucoup de temps à faire surface et sur laquelle planent encore quelques doutes. Saïd Makhloufi de France Bleu Gard-Lozère.
Même dans la famille Trébuchon, l'histoire d'Augustin a mis du temps à s'écrire.
Bon, je m'appelle Lucien Trébuchon. Je suis en fait le petit-neveu d'Augustin Trébuchon, puisque mon grand-père était son frère. Mon grand-père donc n'a jamais parlé que c'était le dernier mort de la guerre de 14. Avant, on savait qu'il était mort à la guerre, mais pas plus, quoi.
C'est en 2008 que l'histoire va faire de lui le dernier. S'il a fallu du temps, c'est parce qu'on a voulu cacher la date réelle de sa mort.
Alors, je m'appelle Barbara Ramon et je suis chargée des archives contemporaines au sein des archives départementales de la Lozère.
Barbara Ramon va nous montrer le document qui prouve ce mensonge.
C'est le document qui remplissait pour signaler qu'un soldat était tombé sur le champ de bataille. Donc mort pour la France le 10 novembre 1918 à Don-le-Mesnil.
Donc il est mort le 10 novembre.
Oui.
Pas le 11, le 10. Augustin Trébuchon est bien mort le 11 novembre. Mais la date a été modifiée pour une raison simple. Alexandre Duic, journaliste, il vient de publier un livre sur le sujet.
Mourir le 11 novembre, c'était mourir deux fois. Parce que l'armistice donc, est signé vers 5h15 du matin. Mais on laisse les combats se dérouler jusqu'à 11h, jusqu'au moment où le clairon va sonner. Donc entre 5h15 du matin, fin officielle de la guerre, et 11h, le clairon, on pouvait pas laisser des gars à mourir. Or, ils sont plus d'une trentaine à être morts.
Il aura fallu 90 ans à l'histoire pour réhabiliter Augustin Trébuchon. Et encore aujourd'hui, le doute existe. Est-il vraiment le dernier ? Dans 100 ans, on se posera peut-être encore la question.
Là où il n'y a ni interrogation ni doute, c'est bien sur l'origine de ce conflit, à savoir l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand, héritier du trône d'Autriche, à Sarajevo le 28 juin 1914. Assassinat qui allait être le coup d'envoi de cette Première Guerre mondiale, guerre qui allait donc durer 4 ans et transformer considérablement l'armée française. Selon François Cochet, historien et co-auteur avec Rémy Porte du livre Histoire de l'armée française 14-18 paru aux éditions Taillandier.
Au cours de l'été 14, la bataille décisive n'existe pas. C'est l'année qui fait le plus de morts. Donc ensuite, 15 et 16, on est dans une guerre statique, la guerre de tranchées. Et là, cette armée française s'adapte parce qu'on s'aperçoit que seule l'artillerie est capable de venir à bout des barbelés de l'ennemi. L'artillerie de tranchées à tir courbe, les gaz, les lance-flammes, les chars, bien entendu. Il y a aussi une modernisation absolument étonnante dans les airs. C'est la première fois que la troisième dimension joue un rôle capital. L'aviation, en 1914, c'est 200 avions. En 1918, c'est des dizaines de milliers d'appareils. Cette guerre fait passer, en quelques années, d'un 19e siècle militaire à un 20e siècle militaire.
François Cochet au micro de Nathalie Hernandez. Un mot encore de ce 11 novembre pour vous dire que les cérémonies seront donc suivies cet après-midi à Paris, dans la grande halle de la Villette, d'un forum sur la paix. À noter que les anti-Trump se sont donné rendez-vous cet après-midi également, place de la République, pour manifester. Manifestation qui ne manquera pas d'être suivie de très près par les services de police et de gendarmerie qui craignent des débordements.
Et je vous rappelle notre émission spéciale entre 10h et 13h sur France Inter. Il est 8h06. Serge Martin, dans l'actualité de ce dimanche également, tous ces incendies meurtriers qui ravagent toute la Californie.
23 morts, près de 700 disparus, des milliers de personnes évacuées. Le bilan est terrible et ne cesse de s'alourdir d'heure en heure. Du nord au sud de la Californie, c'est tout l'État qui est dévasté. Notre envoyé spécial Loïc Piala s'est rendu aujourd'hui à Malibu, la cité des stars qui, comme les autres, doivent quitter leur maison. Je vous propose d'écouter son reportage.
Les pompiers arrosent ce qu'il reste d'une maison dévastée. Illustration de leur impuissance face au Woolsey Fire. Seul le 4x4 sur l'allée a été épargné, mis à part quelques cendres sur la carrosserie. Sur la Pacific Coast Highway, la route qui longe l'océan, les balais d'engins incendie remplacent les habituels embouteillages du week-end. La police a même fermé l'accès aux résidents. Alors Anna ne peut toujours pas rentrer chez elle. Elle vit à Malibu depuis 17 ans. Elle a connu le grand incendie de 2007, le Woolsey Fire, et bien pire.
Partout sur la route, il y a du feu. Où que vous regardiez, il y a du feu.
Sa sœur Elisa est à ses côtés. Elle aussi vit à Malibu. Elle aussi attend de savoir si sa maison surplombant le Pacifique est toujours debout.
C'est tellement beau ici, ces belles collines qui surplombent l'océan. J'ai toujours l'impression d'être au paradis et vendredi, c'était un enfer.
Et cet enfer a détruit la maison de Candace Brown. Elle pensait pouvoir la sauver, mais l'eau a manqué et elle a dû fuir avec son mari.
Quand vous évacuez, ça fait comme un vide dans votre tête. Même si vous voulez tout emmener, rien ne semble vraiment important, sauf vos proches et mon chat.
Le Woolsey Fire a explosé jeudi, poussé par les vents de Santa Ana, des vents chauds et secs. Samedi, ils se sont calmés, un court répit pour les pompiers. À Malibu, Loïc Piala pour France Inter.
Un balcon qui s'affaisse dans le centre de Marseille, faisant 3 blessés. La scène s'est déroulée hier après-midi au passage de la manifestation en hommage aux victimes de l'effondrement de lundi. De quoi relancer la colère des manifestants.
Allez, on termine ce journal avec ce retour sur la Première Guerre mondiale avec, Serge, la création d'un jeu vidéo.
Oui, un jeu éducatif destiné à faire comprendre l'horreur de la Grande Guerre. Intitulé 11-11 Memories Retold, ce jeu vidéo mise sur l'émotion bien plus que sur les armes. Olivier Bénis a rencontré son créateur.
C'est un jeu sur la guerre, mais c'est tout sauf un jeu de guerre. On ne s'y amuse pas au milieu des batailles, mais on vit leurs conséquences. Johan Fanis, directeur créatif du jeu.
Le jeu vidéo a cet effet un peu magique. Le joueur est tout de suite dans la peau du personnage et le degré d'empathie et d'émotion qu'on peut ressentir dans un jeu vidéo est très très fort. Donc on utilise cette porte, on va dire, ouverte vers l'émotionnel pour faire réfléchir aussi à des choses un petit peu plus profondes. Et dans ce jeu, petit à petit, on se pose des questions d'ordre un peu moral ou son rapport à sa nation, à sa famille, à l'autre camp, des choses un petit peu intéressantes.
Le jeu vous place à la fois dans la peau de Harry, jeune photographe canadien en quête de gloire, et Kurt, ingénieur allemand en quête de son fils disparu sur le champ de bataille. Un choix qui gomme l'antagonisme des nations pour se mettre à hauteur d'homme.
Ce qui m'a surpris quand j'ai lu énormément de lettres et de livres et de choses sur la Première Guerre, c'était la similarité entre les deux camps, c'est-à-dire que les deux camps vivaient exactement les mêmes choses, les mêmes moments de galère, les mêmes émotions. Et donc c'était intéressant de montrer qu'à quel point c'était similaire, à quel point tout ça n'avait aucun sens en fait.
Et c'est sans doute la plus belle réussite du jeu, parvenir à susciter l'émotion avec le simple chant fatigué d'un soldat allemand en route vers le front, y compris chez des descendants de poilus français.
Die Sonne sinkt, es steigt, die Nacht vergangen ist.
Olivier Bénis, c'est une interview donc de Johan Fanis que vous pouvez retrouver sur franceinter.fr.